Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme vous l'avez vu, l'actualité ne cesse de nous rappeler qu'on doit agir en faveur du climat et donc adopter et diminuer notre empreinte écologique. Donc, en effet, comme vous l'avez constaté, les besoins en matière de mobilité ne cessent de croître, et plus particulièrement au sein de notre province, avec le nombre de frontaliers qui ne cessent de franchir la frontière. Il y a d'ailleurs la fondation IDEA, la chambre de commerce, qui a fait une étude. Et c'est suivant ces dernières publications. Donc là, on peut passer au slide. Oui, voilà, parfait. Qui démontre qu'il y a 250 emplois qui sont créés chaque semaine, ce qui représente pas moins 155 véhicules en plus sur le trafic routier, composé de malheureusement 1,2 personnes en moyenne, et 48 des nouveaux travailleurs arrivent soit en bus ou en train, 15 à pied et 5 à vélo. On peut passer au slide 4. Donc, en moyenne, pour les résidents luxembourgeois, il faut compter plus ou moins 34 minutes pour effectuer un trajet de 13 km. Les frontaliers français, 54 minutes pour 34 km. Les Belges, 51 minutes pour 42 km. Et les Allemands, eux, ils s'en sortent un peu mieux, puisque c'est plus ou moins 40 minutes pour 40 km. Comme vous l'aurez constaté, les réseaux routiers des deux côtés de la frontière sont à saturation. C'est-à-dire, donc, maintenant, s'il faut réellement agir. On peut passer au slide suivant. Donc, nos voisins Grand Ducos, ils l'ont compris et ont entrepris depuis de nombreuses années une politique d'investissement très ambitieuse, notamment en matière ferroviaire, afin d'attirer plus de nafteurs vers les trains. D'ailleurs, d'ici 2027, les chemins de fer luxembourgeois vont investir pas moins de 3,8 milliards d'euros. Rappelons également que la dépense au niveau du rail luxembourgeois représente 600 euros par habitant et par an. Côté belge, bien, hors travaux RER, la modernisation de l'axe Bruxelles-Luxembourg, on en a parlé ici, le milliard d'euros, dont 30 millions pour la modernisation de la gare d'Arlon. Donc, comme vous le savez, actuellement, le gouvernement belge est en affaires courantes et donc dans l'impossibilité de s'engager budgétairement dans de nouveaux projets. Mais M. le ministre Bello nous a informé qu'il a personnellement invité à plusieurs reprises le prochain gouvernement belge à débloquer un nouveau milliard pour veiller à la pérennisation et l'extension du réseau ferroviaire à long terme. 5 milliards ça... Voilà, donc on passe au slide suivant. Donc, il reprend, c'est une cartographie de la province du Luxembourg. Je crois que ça n'existe pas à l'heure actuelle, même chez Infrabel, parce que je m'étais renseigné. Donc, je me suis permis de détailler toute la partie uniquement réservée à la province de Luxembourg. Ça reprend en détail de toute la cartographie ferroviaire en termes d'électrification et voies non électrifiées sur le territoire de la province. Donc, malheureusement, ici, comme vous le savez, il y a eu une audition ce mercredi à la commission de l'infrastructure des deux CEO d'Infrabel et de la SNCB. Et on a été malheureusement très désagréablement surpris de voir que M. Lallemand a indiqué que pour lui, les zones rurales, c'est quelque chose qui est minime à la rigueur et qu'il préfère les grands axes. Donc, autrement dit, j'ai envie de dire, c'est adieu aux services publics et rentabilité plein gaz. Nous autres, on se pose la question, mais ne serait-il pas possible de supprimer les bonus de départ qui permettraient peut-être de faire de fameuses économies à Infrabel et à la SNCB ? Heureusement, nous avons encore aujourd'hui la chance d'avoir respectivement le ministre luxembourgeois, donc M. Bausch et M. Bello pour la Belgique. Tous deux connaissent bien le monde ferroviaire. M. Bausch vient d'ailleurs des CFL et M. Bello a travaillé au SPW et a d'ailleurs représenté la Wallonie au comité des infrastructures mis en place par la Commission européenne. Donc, les ingrédients sont donc réunis pour que ces deux spécialistes en la matière puissent faire avancer de manière significative les choses. On peut passer au slide suivant. Donc ici, on parle de la liaison Luxembourg-Gouville-Liège, donc, comme je disais tout à l'heure, qui est, semble-t-il, mais ça, il reste un doute pour l'instant, parce que ça a été contredit ce matin, qui est peut-être menacée comme la ligne 43. Est-ce la réalité ou pas? On l'espère que non. Mais donc, nous autres, ce qu'on demande, et ça a été repris par la présentation ici de la SNCB, une amplitude horaire des trains, ainsi que l'augmentation donc, du train du matin et du soir. Surtout qu'il faut savoir qu'on arrive, donc, comme l'a dit tout à l'heure M. Reuter, à la gratuité des transports au Grand-Duché de Luxembourg. Donc, il faut essayer de trouver une tarification attractive pour limiter le nombre de gens qui passent la frontière et qui utilisent les parkings existants de Vielsalm, Gouvy et Trois-Ponts, par exemple. On peut passer au slide suivant. Alors, donc, concernant l'axe liaison Bruxelles-Arlon-Luxembourg, on constate, comme on l'a dit tout à l'heure, que le parking Pépusière de Viville est au point mort. Donc, pour preuve, la SNCB m'a répondu dernièrement, je cite, « Une extension de l'offre de parking à la gare de Viville ne se justifie pas. Or, actuellement, suivant nos renseignements, c'est entre 250 et 500 personnes qui seraient sur liste d'attente. Donc, je pense qu'il serait grand temps d'agir. » D'autant que nos voisins Grand-Ducos s'impatientent vu les promesses initiales faites par la Belgique, mais dont le gouvernement belge a décidé malheureusement à l'unanimité fin 2016 que ce projet n'était pas prioritaire. On peut passer au slide 9. Une bonne nouvelle néanmoins, après 7 ans de mise en service, mieux vaut tard que jamais, les rames des zéros vont enfin être homologuées sur le réseau luxembourgeois pour janvier 2020. Donc, pour petit rappel quand même, pour l'organe de sécurité ferroviaire belge, ils font compter en moyenne, quand tous les documents seront unis, 4 mois, et côté luxembourgeois, 3 mois. Donc si on fait l'addition des deux, il faudrait normalement, théoriquement, 7 mois. Mais malheureusement, toutes les contraintes administratives et externes font que malheureusement ça dure beaucoup plus longtemps. Et aussi en termes techniques, comme l'expliquait M. Bello. On parlait des fameuses rames M7. Donc effectivement, les délais sont très longs, puisqu'on ne devrait pas les voir avant 2022. Je sais que là aussi, à ce niveau-là, il y a une interpellation à la commission de l'infrastructure mercredi. Et suite à cette interpellation, Madame Dutortoir a fait savoir, semble-t-il, que les deux premières rames seraient mises en service sur la ligne 162. Maintenant, à voir, on l'espère. On peut passer au slide. Ah non, je voulais encore dire une autre chose. Donc, au prochain changement d'horaire dont on a parlé tout à l'heure, il faut savoir qu'actuellement, nous avons 11 IC directs qui vont, on va en passer à 9, donc il y en aura 2 en moins. Et en termes de rotation, au lieu de 27 navettes, nous aurons 25 navettes par jour. De plus, on constate, ça c'est à titre d'information, en termes de nombre de voyageurs, qu'il y a une baisse depuis 2012 annuellement de 15% de voyageurs. Alors, en 2012, on était à plus de 2 millions de voyageurs par an sur cette ligne. À l'heure actuelle, on n'est plus qu'à 1 730 000 en un an, donc ça c'est les chiffres fin 2017, on a perdu 5 000 voyageurs. On peut passer au slide suivant. Donc si on parle de la liaison Bertry-Virton au Banjatu, on demande effectivement le rétablissement des trains directs Virton-Luxembourg, et ça peut être quelque chose de réalisable, parce qu'il faut savoir que les rames des zéros vont être homologués, et il faut savoir aussi que le Grand-Duché, le réseau luxembourgeois, il fonctionne en étoile. Donc ça veut dire qu'on n'interfère pas dans son fonctionnement, on peut prendre nos rames des zéros, faire directement Virton-Luxembourg et Luxembourg-Virton. Parce qu'actuellement, comme on constate, comme l'a dit Madame tout à l'heure, dû entre autres aux travaux, mais aussi aux problèmes de rupture de charge, les gens se dirigent vers Attu pour éviter de perdre leur correspondance. On constate d'ailleurs la même chose sur la ligne 162, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se rendent en voiture sur la gare d'Arlon, qui viennent alors même jusqu'à la région de Libramont, pour éviter justement cette rupture de charge. Et d'ailleurs, donc sur cette ligne-là, comme nous parlions de parking, il faut savoir aussi qu'on souhaiterait, comme sur la ligne 42, une tarification attractive au niveau notamment de la commune d'Aubange et de Virton, puisqu'il faut savoir que depuis Virton, il y a la gare de Virton et 3 arrêts sur la commune d'Aubange qui ont des places de parking disponibles, et ce qui permettrait de désengorger la nationale Virton-Attu. On peut passer au slide suivant. Alors, n'oublions pas non plus la liaison Libramont-Mastogne, donc avec le nouveau schéma de développement territorial de la Wallonie, dont les mesures de gestion et de programmation en matière de réseau ferroviaire prévoient explicitement le rétablissement de la liaison transfrontalière Libramont-Mastogne à prolonger vers Vils et Luxembourg, que la réouverture de la ligne Libramont-Mastogne avec prolongation jusqu'à Vils fait partie du programme Écolo-Luxembourg, il figure même en deuxième position. Hasard ou pas, le nouveau ministre wallon de la mobilité est écolo. Que la réouverture de la ligne Libramont-Bastogne fait partie du programme électoral de la commune de Bastogne aussi. Donc voilà. Donc on peut passer au slide suivant. Donc comme vous l'aurez compris, il reste du pain sur la planche pour obtenir un plan de mobilité ferroviaire fiable et durable en province de Luxembourg, d'autant que les travaux de la ligne devraient se prolonger jusqu'en 2027. On a eu les explications tout à l'heure. Et dernier slide. Bien, je vous remercie à tous pour votre attention.